Gens Urbains, une émission coproduite par Locaux et FM+, sur la ville, ce lieu où se fabriquent nos relations sociales, lieu de pouvoir et de culture, un espace concret mais aussi porteur d'imaginaire. La ville qu'on va explorer avec ceux qui la vivent, ceux qui la subissent parfois, ceux qui la pensent et ceux qui la font. Après Nourdine Barra, avec lequel on a beaucoup parlé et bien parlé de la paillade, et Yann Le Guis, architecte montpelliérain qui a porté une critique radicale sur ce qui se fait à Montpellier, troisième invité, c'est Micha Cotte.
Bonjour.
Bonjour Micha. J'ai face à moi une jolie jeune fille de 4 fois 20 ans.
qui est un peu plus même.
Rédactrice du JT du Off, vidéaste, metteuse en scène. Et vous êtes là surtout comme montpelliéraine. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une identité.
Oui, je dis toujours, je ne suis pas née à Montpellier. Mais je suis la plus montpelliéraine des montpelliéraines.
Et oui, et porteuse d'une longue histoire, d'une mémoire qui vous rend si précieuse. Et puis on parlera de votre film sur la place de la comédie que j'ai beaucoup aimé. Alors on va dérouler votre vie, voilà.
Carrément.
Elle le mérite.
Ben c'est
ouais,
long, hein,
c'est
ben long. Ouais,
ouais. Enfance à Figueroles.
Oui.
Mais pas née à Montpellier, alors là...
Non, voilà, voilà. Je suis née à Grenoble, mais les circonstances de la vie ont fait qu'un jour, ma mère a quitté Grenoble et mon père, et est descendue là où habitait sa sœur, c'est-à-dire à Montpellier. Et c'était la guerre. Donc, c'était une période difficile, pauvre... Dans toute mon enfance, les problèmes de logement, problèmes de queue pour la nourriture, etc. J'ai connu tout ça. Et donc, vivre mon enfance à Figueroles, c'était pas indifférent. C'était un quartier pauvre quand même. Parmi la pauvreté que l'on vivait après-guerre, c'était quand même parmi les quartiers les plus pauvres. Mmh. Et puis, c'était aussi un quartier, ce qu'on appelait le quartier gitan. Mmh. Et d'où une expérience assez intéressante. Parce que le faubourg Figueroles était avec une rive droite, une rive gauche. Donc la rive droite, c'était les Montpelliérains blancs, la rive gauche, c'était les gitans. Et donc il y avait, comment dire, une différence, une acceptation, mais il n'y avait pas de... Moi, le souvenir que j'ai, je n'avais pas de rejet. Je regardais, par exemple, le monde gitan avec intérêt. Mmh. Par exemple, j'ai découvert Manita de Plata en train de jouer dans la rue, vous voyez. Ouais. J'ai découvert des gens qui dansaient parfois dans la rue. Des femmes qui nettoyaient à grande eau le pas de la porte. Et donc, cette relation à l'autre, je pense que l'enfance a été bienvenue de la vivre là, finalement.
C'est-à-dire un cosmopolitisme possible, oui, apaisé, oui, relativement,
voilà,
en tout cas.
Voilà, accepté en tout cas, tout à fait. Chez moi, on ne disait pas du mal du tout des gitans. Mmh. Maintenant, on ne faisait rien ensemble quand même.
Ouais.
On se regardait.
C'était quoi le Montpellier pendant la guerre ? Montpellier pendant la guerre, bon, zone libre hein, quand même.
Alors, pendant la guerre, là, je suis toute petite quand même. Hein. Mes souvenirs sont plutôt après-guerre.
Oui.
Bien que mes souvenirs de guerre sont nets. Par exemple, j'ai souvenir d'être allée dans les caves.
Ouais.
J'ai souvenir d'avoir attendu et entendu les cloches de la libération.
Ouais.
Ma tante me raconte toujours que j'étais impatiente, que je ne savais pas si j'arriverais à écouter les cloches de la libération. Donc, c'est des souvenirs qui sont forts de la guerre. Ils sont inscrits. Hein. Là, j'avais 3 ans, quoi, vous voyez, 3-4 ans.
Ce qui est frappant, c'est que toute votre vie, montpelliéraine, comme on n'en fait plus, est rythmée, incarnée par un parcours de lieux que nous connaissons tous, mais qui, pour vous, sont autant de jalons d'une vie personnelle et intime et totalement relayés à ces lieux communs.
Tout à fait.
Vous m'avez parlé du conservatoire, Sainte-Anne, du lycée Clémenceau. Donc, conservatoire, c'est là que vous apprenez le théâtre.
Le conservatoire, c'est là que j'apprends la musique.
La musique.
La musique, essentiellement.
Il n'y a pas de théâtre à ce moment-là.
Non, le théâtre, ça vient très tard. Et honnêtement, la formation en théâtre au conservatoire de Montpellier, j'ai appris à dire des fables de La Fontaine. Mais là, déjà, j'étais plus grande. Tandis que les cours de danse ont commencé, en revanche. Ce qui a été le plus important, c'est la danse. Parce que, justement, parmi les quartiers de Montpellier, il y a l'opéra. Ouais. Parce que moi, au fond, j'allais du quartier le plus pauvre, Figueroles, et puis j'allais devant la comédie. Pour moi, c'était l'opéra. Mm-hmm. Parce qu'à l'opéra, il y avait, à cette époque-là, quoi qu'on dise, c'était très vivant, c'était le seul lieu culturel, parce qu'il y avait un corps de ballet permanent, ouais. Avec danseuses étoiles, danseuses de caractère, premier danseur, un corps de ballet. Il y avait donc des chorégraphes, et ces chorégraphes, ça c'est vraiment le cadeau que m'a fait Montpellier, le plus beau cadeau que m'a fait Montpellier, c'était les chorégraphes étaient un couple qui s'appelait Langlois et Davin, qu'à l'époque tout le monde connaissait. Ils ont fait une école de danse où vraiment tous les enfants de Montpellier ont participé, et ça a été vraiment... Une éclosion. D'ailleurs, il est sorti de cette école. Lise Pinet, par exemple, qui a été dans la Juliette de Béjart. Moi, j'aurais pu devenir danseuse à un moment. Mm-hmm. Mais j'ai choisi de faire des études, en fait, plutôt.
Et alors, ce couple de femmes, Davin et Langlois...
Davin et Langlois, oui.
Elles, sur une photo que vous m'avez montrée, elles paraissent... on dit qu'elles sont gentilles et exigeantes. Moi, je ne trouve pas qu'elles aient l'air gentilles, mais bon.
Non, mais c'est-à-dire, elles étaient merveilleuses, à vrai dire. Elles étaient merveilleuses, parce que personne ne se préoccupait de savoir que c'était un couple. C'en était un, évidemment, elles vivaient ensemble. Et il y en avait une qui était assez masculine, qui dansait pas très bien, qui avait un gros bâton pour taper les temps. Et l'autre, Davin, qui elle, en revanche, dansait très bien. Était pas belle du tout, elles n'étaient pas jeunes non plus. Mais elle, on voyait qu'elle avait été une vraie danseuse. Et ce qu'elle nous apprenait, c'était une belle construction du corps de la danseuse, réellement. Mais c'était original, quoi. Elles étaient originales. Elles s'occupaient de nous. Elles veillaient à ce qu'on soit propre. Elles veillaient à ce qu'on soit poli. C'était un lieu d'apprentissage.
Propre et poli.
Oui, propre et poli.
D'accord. L'apprentissage pour les femmes ou les jeunes filles.
Parce que pour être danseuse, il ne fallait pas se contenter de bien danser. Il fallait être de belles personnes.
Ouais.
Donc elles y travaillaient.
Est-ce que vous preniez quelques coups de baguette comme parfois ils étaient donnés dans les cours de classique? Moi j'ai connu ça.
Non.
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 Non. Non.
Le classique c'était quand même pas la danse la plus
relaxe.
Elle
pouvait être sévère quand même.
Respectueuse quand même, non?
Oui, non, elles frappaient pas. Elles passaient pas par là, quoi. Elles pouvaient être sévères, nous gronder. Mais ça n'allait pas jusqu'à nous frapper les mollets.
Donc c'était de la danse classique.
C'était de la danse classique, bien sûr, très classique. Bien
ouais.
sûr,
bien Et vous sûr. Faisiez des représentations à la fin de l'année?
Alors oui, ce qui est merveilleux, justement, c'est que non seulement on prenait des cours de danse, mais on était les petits rats. Et c'est-à-dire qu'on participait à leur chorégraphie. Et à cette époque-là, le droit des enfants au travail ne semblait pas les préoccuper. Car le soir, à 11h, on pouvait arriver à l'opéra pour danser, faire partie du ballet.
On va écouter justement un extrait de Faust, ces airs qui vous ont bercé. C'est le Pas des fleurs du Faust de Gounod.
Thank you.
Quand on apprend à être propre et poli et qu'on danse bien, on trouve plus facilement un mari à ce moment-là à Montpellier.
On ne cherchait pas à le marier.
Non ?
Non, non, alors ça, franchement, je ne cherchais pas à le marier, mais vraiment, je suis tombée sur lui très, 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 très vite. J'avais 16 ans et je me suis mariée très vite, voilà.
Très jeune.
Très jeune, 17 ans.
17 ans. Et à ce moment-là, vous enseignez, vous êtes professeur
alors,
de lettres.
Voilà, je venais de passer mon bac philo, puisque j'avais, à un moment, les demoiselles d'Avelangois voulaient m'envoyer à Paris pour faire un petit rat à Paris.
Oui.
Et là, j'ai choisi de faire mes études, j'ai quelque part abandonné la danse. Donc, quand je me suis mariée, je venais de passer mon bac philo, j'ai eu mon fils et j'ai fait mes études de lettres. Et donc, après mes études de lettres, je me suis retrouvée professeur de lettres pendant quelques années. Mais on va dire que ce n'était pas ma vocation. En tout cas, j'avais surtout envie de faire du théâtre, vraiment. C'est ça qui m'intéressait absolument.
Et vous êtes devenue metteuse en scène, Micha Cotte. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que moi, je vous connais.
Oui. Enfin, je suis devenue metteuse en scène. Disons que ça m'a pris longtemps. C'est-à-dire que toute une période où j'étais professeur de français, à côté de ça, je rêvais d'être comédienne, de faire du théâtre, je m'intéressais, j'allais voir, je lisais tout ce que je pouvais lire sur les metteurs en scène. Je n'ai pas eu une formation, d'ailleurs il n'y a pas de formation de metteur en scène en France. Il a fallu que je découvre à quel point on apprenait à être metteur en scène en Russie pour comprendre qu'en France, on se décrétait metteur en scène. C'est une citation de Peter Brook.
Mm-hmm.
Donc... J'ai passé ces années où je continuais à être enseignante avec quand même un certain plaisir, parce qu'il se trouve que par chance, à la faculté, il y a eu Henri Hagel, qui est le premier maître de professeur de cinéma en université, qui est arrivé à Montpellier. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de chance avec l'arrivée de gens importants à Montpellier. Henri Hagel, pour moi, ça a été capital.
Il a nourri des générations, son nom reste important.
Ah, c'est merveilleux, parce que lui, en revanche, a été mon maître. Il s'est occupé de ma maîtrise. Je fais une maîtrise de cinéma, donc. Et je m'intéressais, j'allais à l'université aussi pour faire du cinéma, pour faire du théâtre avec Jacques Biulès. Je continuais tout le temps à me former quelque part pendant toutes ces années. Je crois que j'ai passé presque 10 ans à me former, vraiment. Parce que ce que je voulais faire, ce n'était pas simplement de la mise en scène. Je voulais concevoir des spectacles autour de textes ou de thèmes. Je ne cherchais pas à monter Molière, Corneille, etc. Ce n'était pas du tout mon but. Moi, je voulais inventer des formes théâtrales qui réuniraient tout ce que j'aime. Les arts plastiques, la musique, la danse, le corps... Le texte. Et c'est ce que j'ai fait avec le... Pour moi, le spectacle qui a été le plus fort et le plus abouti, c'est celui que j'ai fait en évoquant Camille Claudel. Et là, effectivement, j'ai tout réuni. Il y avait un sculpteur sur scène contemporain qui érigeait au fur et à mesure des éléments du décor qui allait devenir la sculpture à la fin. Je dansais à cette époque-là dans des élastiques. Et c'est un spectacle pour moi qui est fondateur, vraiment important. J'aurais tout le temps aimé être dans cette recherche-là. Je n'en ai pas toujours eu les moyens.
Alors justement, c'est plus difficile d'être une femme metteuse en scène à ce moment-là ? Forcément.
Quelle question.
Je connais la réponse, oui, je sais.
Question. Mais personne n'osait être metteur en scène à cette époque-là. Longtemps, j'ai été la seule. Après, il y a eu Jocelyne Carmichael. Mais franchement, c'est un métier de pouvoir, la mise en scène. En plus, il faut être... Moi, je faisais de la mise en scène, pas sur commande, puisque je voulais monter mes propres projets. Donc, pour monter ses propres projets... Moi, je ne voulais pas attendre d'être choisie pour faire quelque chose. Je voulais monter mes propres projets. Donc, pour faire mes propres projets, il fallait que je cherche l'argent. Il fallait que j'arrive à me faire reconnaître. Il fallait que je fonde ma compagnie. Donc, ça a été un travail tout à fait énorme. Et je pense que si je l'ai fait, c'est parce que je ne me rendais pas compte des difficultés dans lesquelles j'allais me trouver. Mais en même temps, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas faire autre chose. J'étais faite pour ça.
Quel changement, hein, quand on voit aujourd'hui la richesse de la proposition féminine dans le théâtre, à tous les endroits, ça a vraiment...
Y a C'était une pas mal, hein, ce que je proposais déjà. Hein, ah, spectacle sur Camille et Claudel, avant Adjani. Vraiment, j'étais allée rencontrer Reine-Marie Paris à Paris. Donc, j'ai vu un film récemment où Reine-Marie Paris explique la vie de Camille et Claudel. Moi, à l'époque, quand je suis allée la voir à Paris, elle a regardé mon texte, qui était, il y avait 50 de pages, et elle a refusé qu'on nomme les lettres des médecins qui disaient que Camille pouvait revenir chez elle. Parce qu'il fallait pas, à l'époque, elle n'imaginait pas qu'il fallait qu'on risque de faire du mal à Paul Claudel. Il ne fallait pas à cette époque-là. Mmh. Elle a changé depuis. Elle n'hésite plus maintenant à dire la vérité. Mais c'est bien tard, c'était il y a 40 ans, moi.
La place de la comédie, flambant neuf, est prête à rentrer dans le XXe siècle et à jouer son rôle dans la représentation de la société urbaine. Ainsi l'évoque Jeanne Galzy, l'écrivaine montpelliéraine qui sut si bien compter sa ville natale. Sur la place ovale de la Comédie, les trois grâces, nues, un peu lourdes et provinciales, tâchaient en vain de tourner en rond autour de la fontaine, tandis qu'à leurs pieds, les jeunes gens tressent la ronde de la coquetterie et du désir.
Alors ça, c'est Jeanne Galzy dans la vidéo que vous avez faite sur la place de la Comédie qu'on a pu voir lors de la dernière ZAT, qu'on trouve sur YouTube. Comment on fait ? On tape quoi ?
On tape la place de la Comédie.
Michacotte, par exemple. Alors, il y a deux formats. Il y a un petit format de 5 minutes et un autre un peu plus long. Alors là, c'est vraiment c'est génial parce que c'est la comédie des beaucoup des années 50 et 70. On voit des gens en pâte d'eff, etc. C'est marrant. Et vous dites que c'était les douces images, comme une sorte d'âge d'or de la comédie.
Oui, c'est vrai que... Pendant longtemps, en fait, la comédie est restée immobile assez longtemps. Mm-hmm. C'est pour ça que je commençais en parlant de Jeanne Galzy. Parce que Jeanne Galzy, elle part de la comédie qui est devenue haussmannienne. Tout d'un coup, parce que dans le premier film qui est long, je raconte toute l'histoire de comment on est arrivé là. Mais il y a un moment où c'est la grande révolution fin 19e siècle, grande bourgeoisie, Haussmann, etc. On a cette espèce de décor qui fait encore un des charmes de Montpellier, si on aime le style haussmannien. À partir de 1900, la place est restée à peu près la même. Elle n'a pas bougé. Donc, moi, ce que j'ai connu, c'est une place qui était encore comme elle était finalement à l'époque de Jeanne Galzy. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment donc béni avant que tout d'un coup, on décide alors qu'il fallait faire un parking, qu'il fallait tout casser, que la place a changé, quoi. Elle a cessé d'être protégée, environnée, avec de la végétation, parce qu'il y avait l'opéra d'un côté, de l'autre, il y avait la gare de Palavas avec son petit square qui faisait l'esplanade arriver jusqu'au square. Donc, c'était un lieu où on était à l'abri quelque part. C'était un lieu intime. Et ce que ça a cessé d'être à partir du moment où on a cassé la gare de Palavas. C'est le symbole, la gare de Palavas.
Ah oui. Je fais une parenthèse sur Jeanne Galzy, que vous connaissez bien, une sorte de Colette languedocienne.
Oui, on pourrait dire ça. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que je travaille beaucoup en ce moment. Je suis très intéressée par les gens qu'on oublie. Que j'ai croisé, moi, et que je trouve magnifique. Et Galzy, par exemple, c'est très intéressant de la comparer à Colette. Parce qu'au fond, elles étaient copines, toutes les deux.
Oui, je sais.
Elles étaient... Alors, Galzy était homosexuelle, Colette était plus que ça, elle était un peu tout. Elles ont eu du succès de leur vivant, mais pas dans la mémoire. Parce que Colette était extravagante, Colette était danseuse nue. Jeanne Galzy était une provinciale, protestante.
Ah oui, protestante. Mais elle parle des corps dans cet extrait. Et on voit que la comédie, vous parliez de danse tout à l'heure, c'est aussi un lieu des corps. C'est-à-dire qu'on on vient, vous le racontez, c'est marrant, on vient, on s'endimanche, enfin on vient, on se fait beau.
Parfait,
et on va à la comédie, et là il y a un photographe, et on se
Des photographes.
Comment ça se passait? C'était payant déjà? C'était gratuit, non?
Ils nous photographiaient. En fait, on ne refusait pas. La plupart du temps, on y allait pour ça.
Ah.
Les mamans y allaient avec leurs enfants. Les jeunes gens y allaient avec la jeune fille séduite, la jeune fille avec le garçon avec qui elle pouvait donner le bras à ce moment-là. On allait montrer qu'on était bien, qu'on était heureux. C'était vraiment la démonstration du bonheur.
Ouais, ouais,
exactement
vraiment.
Ça. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez comment mon enfant est joli, comme ouais, il est beau. Ouais. Et d'ailleurs, vraiment, endimanché, ça veut vraiment dire quelque chose. Ça n'existe plus maintenant.
Ouais, 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 ouais.
Il faut aller, même quand on va à l'opéra, on ne s'endimanche plus, maintenant. Mmh. Mais même on a honte, si on s'endimanche, on se trouve ridicule. Mais là, moi j'ai souvenir quand même que ma mère promenait mon fils, tout petit, avec des petits gants blancs. Hein? Voilà, il avait 4 ans, quoi. Mmh. Et après, quand on avait nos amoureux, évidemment, on allait montrer notre amoureux.
Ah oui, c'est ça.
Eh oui.
Comment ça veut dire quoi exactement, montrer? On se baladait avec
lui,
main dans la main.
Ah oui, on se promenait, on se donnait le bras, on traversait la place, on allait jusqu'à l'esplanade, on faisait le tour de la Comédie, on s'arrêtait boire un pot aux riches, où il y a bon, où il y a mieux, aux Trois-Grâces. En tout cas, c'est vraiment comme un lieu d'exposition. C'était un studio photographique.
Ah ouais, ça c'est vraiment
étonnant. Et les photographes étaient là, ils nous donnaient un petit ticket. Après, on allait réclamer les photos. On était très contents d'aller réclamer les photos.
Mm-hmm.
D'ailleurs, les photos étaient avec la date, l'heure à laquelle c'était pris. Et ça laisse des beaux albums de photos.
Alors justement, je trouve qu'il y aurait vraiment matière à une exposition.
Ah oui.
Parce que les photos, j'ai l'impression que vous en avez beaucoup, elles sont étonnantes. C'est témoignage.
D'ailleurs, j'en avais, moi, quand j'ai fait le film, j'avais pas la place de tout mettre. Parce que je travaille avec un groupe qui s'appelle Montpellier Passé. Et
oui,
c'est
sur
un groupe
Facebook.
On est 14 000
super,
maintenant, qui sont intéressés à la fois par le passé, par l'histoire de Montpellier aussi. Et du coup, j'ai reçu plein de photos, puis j'ai demandé la permission. Est-ce que je vais pouvoir les utiliser? Et du coup, j'en ai utilisé, une quinzaine, et j'ai eu des retours me disant pourquoi je ne suis pas dans le film. C'était délicieux d'avoir toutes ces photos. On pourrait les classer par époque, avec la mode, en fonction des pantalons, des coiffures.
Ah ouais, vraiment. Et des voitures, vous parlez des dauphines, des déesses de l'époque, des deux chevaux, évidemment. Ouais. Il y a une espèce de monde comme ça, Kodak, un peu déjà colorisé, et comme vous dites, heureux.
Oui, c'est vrai. En tout cas, moi,
c'est assez beau à voir.
Je crois que j'ai donné cette impression-là dans le film, parce que c'est ce que je ressens. C'est un peu un petit paradis perdu. Et c'est lié à la fin de la gare de Palavas. Honnêtement, quand même, le symbole de ça, c'est d'avoir supprimé la gare de Palavas. Parce que quand même, il faut se rendre compte de ce que ça voulait dire.
Supprimer le petit train de Palavas, peut-être.
Le petit train de Palavas. Il y avait une gare.
Ah oui, il y avait une gare sur l'esplanade.
En face, là où maintenant il y a le triangle, là. Vous voyez Parce que c'est devenu maintenant un triangle. Là.
Ouais, ouais.
À la place du triangle, il y avait une gare. Devant cette gare, il y avait un square. Et donc, on pouvait se déplacer. Le dimanche, on pouvait aller faire à la place de la Comédie, avec un sac et ses serviettes. On prenait le train et on allait prendre un bain. Et après, on venait avec le petit train.
C'était bien, ça.
C'était magique, quand même. On aimerait bien que ce soit comme ça, maintenant.
On sent de la nostalgie, là.
Oui, il y a de ça, il y a de ça.
Oui, mais vous me disiez, il y a quelque temps, que finalement, avec la piétonnisation, le tram, etc., vous êtes toujours dans ce lieu à de circuits courts, où vous vous déplacez et qui est toujours cette bulle urbaine et personnelle.
Je retrouve, grâce à le nouveau Montpellier qui est en train de se mettre en place, beaucoup grâce au tramway en fait quand même, mais il y a aussi une politique qui va dans ce sens-là, il faut bien reconnaître, de la part de notre maire, mais qui a été enclenchée par Georges Frêche, qui fait que maintenant, je me sens dans Montpellier aussi à l'aise presque que j'y étais enfant, grâce au tramway. Parce que tout étant accessible, et puis quand même le centre, c'est resté le centre, quoi. Après, la ville, elle s'est agrandie à l'extérieur, quoi, sur l'extérieur, dans les faubourgs. Mais le centre-ville, c'est reste toujours le même. Et comme on y circule aisément, c'est devenu précieux.
Alors justement, c'est un retour d'une forme de douceur de vivre dont vous pouvez être le témoin. Et en même temps, ce n'est pas que ça. Montpellier. C'est-à-dire que c'est une ville devenue métropole, au développement accéléré. C'est vrai que ce sont des choses dont on parle ici, dans cette émission. Comment vous la voyez-vous, cette ville?
En tout cas, moi, le développement de la ville, si je suis totalement cohérente avec l'expérience de mon vécu, c'est que pour moi, lorsque j'étais enfant, il y avait à Montpellier de quoi nourrir mes goûts artistiques. J'ai pu nourrir mon goût de la danse, mon goût du théâtre, mon goût des textes. J'ai pu nourrir tout ça. Ça existait à Montpellier. Il y avait aussi, d'ailleurs à cette époque-là, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai me souvenir d'une époque où il y avait exactement 8 cinémas à Montpellier. Mmh. Donc non seulement la culture théâtrale, etc., mais cinématographique, qui explique aussi que j'ai le goût du cinéma. Vous vous rendez compte, 8 cinémas permanents, et là, l'après-guerre, je veux dire, tout Hollywood est arrivé là. Après, quand j'ai décidé de me consacrer à l'art, eh bien Montpellier s'est développé dans ce sens-là aussi, ce qui n'était pas jusque-là. Mais à un moment, Montpellier, Georges Frêche a décidé que c'était une ville culturelle. Montpellier l'a surdoué, vous voyez, et petit à petit, il est arrivé les instruments, les théâtres, les structures qui m'ont permis de faire ce travail de mise en scène auquel j'aspirais, qui n'a pas été facile, ça a été compliqué, mais j'ai pu le faire. J'ai pu le faire, Montpellier m'a permis de le faire. C'est pour ça que j'ai le goût de cette ville très fort, parce que liée à mon vécu, profondément. Et ce que je vois actuellement, avec la facilité du tramway, me permet, devenue une vieille dame maintenant, oui, de continuer à y vivre de façon heureuse.
Ouais. Voilà. Alors, je vous ai demandé, comme à tous mes invités, de venir avec un son, enfin une idée de son, de ce qu'est un son pour vous, qui serait typiquement montpelliérain, un livre et un film. On commence par ce que vous voulez. Le son ?
Alors, le son, alors je ne vais pas être originale, évidemment. Ça ne peut pas être autre chose en ce moment que les tramways. Alors, je dis pas
alors,
le son du tramway.
À chaque fois, on a droit au son du tramway.
Pas le son du tramway. Je dis le son des tramways devant la gare.
D'ailleurs, vous dites tramway, je note. Hein. Pas tramway. Vous faites tramway. Comme Georges Frêche, je disais tramway.
Tramway. Ah oui, mais je parle avec l'accent du midi. Il faudrait que je parle de mon accent du midi.
Ah
parce
oui,
que longtemps,
comme vous voulez. Oui.
Longtemps, j'ai cherché à le perdre.
Oui.
Parce que j'ai passé une époque aussi à Paris pour tenter de faire du théâtre là-bas pendant quelques temps. Donc à cette époque-là, évidemment, tous mes efforts portaient surtout à ne plus avoir cet accent-là.
C'était
et quand
rire,
j'ai joué les bonnes de Genet, etc., bien sûr que je n'avais pas l'accent du midi. On est capable de ne pas l'avoir, l'accent du midi. Hein.
Encore que ça se perd facilement.
Ce n'est pas si facile.
Non.
Ce n'est pas si facile. Mes copains parisiens me disaient toujours, il y a un petit quelque chose encore.
Qui reste.
Et ils étaient contents, ça leur plaisait d'ailleurs. Et je l'ai retrouvé très volontairement. Non, je l'ai laissé revenir tranquillement. Et maintenant, j'adore l'avoir. Parce que c'est ma musique. Mon accent, il n'est pas toujours le même. Ça dépend comment je me trouve, dans quel état je suis, avec qui je parle. Parce que je peux prendre l'accent de la personne à qui je parle aussi. Donc, mon accent, c'est quelque chose qui change tout le temps. Si j'enregistre pour un film, je n'ai pas tout à fait le même accent que quand je papote avec une copine. Ou... Voilà. Et là, je pense que j'ai sans doute l'accent de quelqu'un qui sait qu'elle passe sur une onde quand même, sans doute.
Donc, il serait peut-être moins appuyé ?
Je ne sais pas.
Un peu plus
je sais pas.
Limé ?
Je ne sais pas. Je ne l'analyse pas, mais je sais qu'il change.
Il est fluctuant.
Je l'entends.
Mm-hmm.
Je l'entends.
Mm-hmm. En tout cas, Micha, cet accent-là, il est un peu rare. Moi, vous êtes une des rares personnes que je fréquente, là, qui est vraiment l'accent. C'est vrai, c'est rare.
Regardez un cinéaste comme Guédiguian, il a son accent de Marseille. Il n'a pas de honte d'avoir l'accent de Marseille.
Il l'a-t-il jamais perdu ?
Il n'a jamais perdu, mais on n'a jamais perdu. On ne le perd pas. Quand on l'a plus, c'est qu'on le fabrique. C'est qu'on se fabrique autre chose. Ce qui n'est pas une bonne situation. Parce que quand même... on s'est formé dans une langue qui avait une certaine musique. Et la perdre, c'est quelque chose qui est perturbant.
Ouais.
Ça trahit quelque chose. Et ça trahit surtout l'origine. Mmh. Et moi, quand j'ai décidé que je ne faisais plus d'efforts, que je me laissais aller à parler comme j'ai envie, c'était une revendication de mes origines. Vraiment, c'est important pour moi.
Alors le son, donc on a dit le tramway.
Alors le tramway, mais au tramway, il faut ajouter le cri des mouettes. Le cri des mouettes. Parce que Montpellier est au bord de la mer. Ce n'est pas une ville balnéaire, comme voulait faire Georges Frêche.
On a parlé Dieu avec merci. Yann Le Gouis, oui.
Ah oui, Dieu merci. Mais c'est une ville où la mer est proche, et ça, c'est un bonheur immense, vraiment.
Le film.
Alors, le film, évidemment, comment ne pas parler de l'homme qui aimait les femmes.
Ah oui.
Parce que quand même,
François
c'est un
Truffaut.
Film de Truffaut, avec Charles Denner, qui a dû utiliser toutes les jolies filles de la région et toutes leurs jambes. C'était un film magnifique, en même temps, vraiment, d'un charme fou, qui développe cette vieille légende, qui date d'ailleurs du Moyen-Âge, qui disait déjà que les filles de Montpellier étaient très belles.
Ça alors, date Truffaut, de... Truffaut le dit, c'est une grande surprise pour ce cinéaste qui cherche à faire un film, et c'est la beauté des femmes montpelliéraines, les plus belles femmes du monde, qui inspire ce film. Mais c'était effectivement quelque chose, il n'a pas créé de précédent, puisque effectivement, bien avant, il y a une sorte de beauté légendaire qui a été souvent analysée, y compris par des universitaires.
De toute façon, Montpellier est quand même une ville... Il faut connaître l'histoire de Montpellier pour se rendre compte que c'est une ville rare. Par exemple, c'est une des rares villes qui s'est construite sur un projet. C'est-à-dire que les Guillens, la fameuse famille des Guillens, qui a créé un lieu à bonne distance de la Méditerranée, avec un projet de commerce avec tous les pays méditerranéens. Et c'est vraiment une ville qui a été créée sur un projet et qui s'est développée dans une famille qui a développé tout ce projet. Donc c'est une ville en plus qui a développé la notion de liberté. Donc ça reste dans l'histoire de Montpellier.
Cette fameuse beauté, c'est certains universitaires, parce que a priori c'est un terme un postulat qu'on a du mal à prendre au sérieux, mais certaines études ont dit plus finement qu'il s'agissait aussi d'une ville où les femmes étaient éduquées, qu'il y avait une espèce de sud comme ça, les corps ne sont pas les mêmes, plus exposées, peut-être plus, mais aussi une forme d'éducation, enfin voilà, une forme de culture, ce que vous dites. Il y avait quelque chose à Montpellier qui faisait que
on parle de Marie de Montpellier par exemple, Marie de Montpellier qui a été une des dernières Guillemets. Mais c'est elle qui a beaucoup œuvré pour la liberté des Montpelliérains, qui a préparé la notion de consulat. Avec, vous voyez, c'est quand même une ville qui tient une force profonde, quoi, qui a des racines.
D'accord. Voilà. Et puis cette figure des ambiguës, des grisettes.
Parce que tout ce que je sais, moi, des grisettes, c'est parce qu'en ce moment, je travaille sur le peintre Édouard Marsal, que je veux refaire connaître parce qu'il est intéressant. Et il évoque effectivement les grisettes. Et lui, il en parle déjà, fin du 19e siècle, avec nostalgie. Et il dit même qu'elles étaient ravissantes, qu'elles avaient une mode qui leur était propre et qu'elles ont été gâtées par l'arrivée des modes extérieures qui ont fait que les grisettes n'étaient plus les mêmes, quoi.
Qui étaient ces couturières, un petit peu, c'est ça, ces
elles faisaient leur propre robe. Et elles avaient donc leur mode. C'est comme si on disait maintenant, la mode parisienne est arrivée, donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, quoi, qui est lié à l'originalité qu'avaient ces couturières de se faire coquette, de mettre en valeur leur métier et leur beauté.
Le livre.
Alors, le livre, évidemment, Jeanne Galzy. Jeanne Galzy, La Grand-Rue. La Grand-Rue, parce que quand même, elle a écrit un livre consacré à cette rue dans laquelle elle est née. Et c'est quand même le résultat de ce travail qu'on a fait, pas seulement moi, mais Michel Verdeillan. Et on a écrit, on a remis au goût du jour un peu le travail de Jeanne Galzy. Et ça nous a permis maintenant d'avoir une plaque dans la Grand-Rue qui fait honneur à la maison d'enfance de cette écrivaine qu'on redécouvre avec plaisir. Hein, elle vaut la peine.
Ah oui, et que je vraiment recommande de lire. Oui. On a commencé avec Jeanne Galzy et on termine avec elle. Micha Cotte, j'étais à peu près sûre que ce serait un régal et c'est bien le cas. Merci infiniment. Je pense qu'on pourrait peut-être en faire une autre parce qu'on peut travailler vraiment sur la mémoire avec vous de Montpellier à l'infini. Et on va retenir cette idée d'une photo, d'une expo, des photos du dimanche, de la place de la Comédie. Merci infiniment, Micha. À bientôt.
Merci à vous.
C'était Genre Urbain, une émission FM+, et un podcast locaux sur la ville que vous écoutez sur la radio le premier jeudi de chaque mois et sur toutes les plateformes locaux, Ocha, Spotify, etc. À bientôt.